Oui, je se casse.
Alors, merci Samuel pour ton intervention. Alors, j'ai deux remarques ou questions, oui, questions-remarques, qui sont assez liées l'une à l'autre. Donc, je dis d'avance que ma deuxième remarque va porter sur la prétendue étanchéité entre le politique et le religieux, qui n'existe pas, y compris dans les propos du RAN, à mon sens. Et pourquoi je trouve que l'exemple qui a été pris pour la question est un exemple qui est assez révélateur de la mécompréhension qu'ont les gens de ce qu'est un rabbin, et pas de la mécompréhension qu'ont les rabbins de ce qu'est une nation. Mais avant ça, ma première remarque, elle est sur le Grand Sanhédrin qui a été formé par Napoléon et pas par le grand rabbin David Zinsheim. Ce que j'essaye de dire là, c'est qu'il faut prendre en compte pour comprendre profondément le texte qu'on a sous les yeux, c'est-à-dire les décisions qui ont été rendues par le Grand Sanhédrin, le contexte dans lequel il a été formé. En l'occurrence, c'est Napoléon qui a convoqué l'Assemblée des notables, tu l'as cité, qui contenait un très grand nombre de gens qui n'étaient pas religieux. Quand je dis qui n'étaient pas religieux, je veux dire même dans les faits, c'est-à-dire que des gens qui étaient éloignés de toute religion. Et pour lesquels, quand tu lis les comptes rendus de cette assemblée des notables, je ne sais pas si tu en as eu l'occasion, enfin, quand tu les lis, tu vois que les rabbins devaient expliquer qu'ils étaient peut-être un peu légitimes pour dire que le mariage d'un juif avec une non-juive ou d'une juive avec un non-juif n'était pas permis, et que les gens en face Donc, s'octroyer le droit de revenir et puis de faire des drachotes eux-mêmes. Enfin, c'était assez, assez amusant pour se l'autoriser en général. Donc, c'est dans ce contexte-là que s'est déroulé, c'est-à-dire à la fin de l'Assemblée des notables. Napoléon veut qu'il y ait une sanction religieuse aux conclusions de cette Assemblée des notables. Et donc, il forme ce grand Sanhédrin. Chose étonnante, dans ce grand Sanhédrin, il n'y a pas que des religieux, là non plus. Donc, ce que tu vois en fait à la fin, c'est-à-dire le texte qu'on a sous les yeux à la fin, c'est un texte qui résulte d'une forme de consensus mou, où il fallait bien montrer auprès de Napoléon qu'on voulait pas d'histoire en termes rapides, qu'on voulait pas d'histoire, et qu'il n'y a pas, pour répondre à la question de Raphaël Schwab, enfin pour proposer une autre réponse à la question de Raphaël Schwab, il n'y a pas à lire dans ce cas, dans ce qu'a écrit ce que Napoléon appelait le Grand Sanhédrin, qui n'a rien d'un Sanhédrin, bien sûr, il n'y a pas à lire du tout de décision halachique. Il n'y a pas du tout à lire de décision en loi juive. D'ailleurs, la seule chose qu'il dit, c'est les dispositions de la loi de Moïse qui renfermeraient des dispositions civiles ou politiques, c'est intéressant, et qui ne seraient pas en harmonie avec le code français, ce serait dès lors de les régir les Israélites, sauf qu'il n'y en a pas. Puisque le droit, ne serait-ce que le droit français, je ne sais pas si c'était déjà le cas avec Napoléon, mais le droit civil français est consensuel. Donc si on se met d'accord entre nous que, et Mistama, c'est le cas, que nos échanges commerciaux entre toi, Shmuel et moi sont à Alpidine Torah, bon ben, je veux dire, la loi n'a rien à redire là-dessus. C'est pour ça d'ailleurs que les tribunaux d'arbitrage civil sont parfaitement tolérés. Donc ça, c'est la première remarque que je voulais faire quant à l'interprétation. Ou la surinterprétation que tu ne fais pas, mais qu'on pourrait tenter de faire à la lecture des conclusions du grand Sanhédrin. Pour la deuxième remarque, pour ce qui est donc de la séparation entre le civil et le religieux. D'abord, le Talmud, et en particulier les Babot, sont, passez-moi l'expression triviale, sont bourrés de règles qui sont des règles purement civiles et qui régissent la société et qui sont là, y compris en tant que takanot de Rabbanan, c'est-à-dire en tant que loi rabbinique, parfois pour régir la société. C'est-à-dire pas seulement dans des cas de vol, aussi dans des cas de voisinage, par exemple. Bon. Donc, à partir de là, une prétendue étanchéité entre ces deux domaines tombe et elle a plus lieu forcément, enfin, elle a plus lieu d'être évoquée, au moins pas en ces termes. Ensuite, ce que dit le Talmud, c'est que pour certaines matières financières et pas toutes, le minag des habitants, donc tu as cité le minag la coutume des vendeurs ou sur la façon d'acquérir des objets, peut prévaloir sur la loi talmudique, et ça s'entend bien, puisque l'argent enfin, les relations financières, pas toutes d'ailleurs, mais la plupart des relations financières sont telles que elles sont soumises à la mechila, au pardon, c'est-à-dire que on peut très bien se faire des cadeaux entre nous. Donc, puisqu'on peut très bien se faire des cadeaux entre nous, on peut très bien décider de transfert d'argent entre nous, sans qu'il y ait nécessairement de contrepartie. On peut décider entre nous d'amende. Enfin, c'est quelque chose qui se comprend bien. Il y a une couche supplémentaire qui a aussi une question de contrainte dans ces cas-là, mais enfin, ça s'entend bien. De sorte que, et le RAN, même le RAN n'ira pas contre ça. De sorte que on peut pas parler de séparation entre le civil et le religieux. Simplement, ce que dit le RAN quand il dit que la loi toraïque est pas suffisante en elle-même, ce sont deux choses différentes. La première chose qu'il dit, c'est que pour certaines lois pénales, on a besoin du meller. Là, dans ce cas-là, il parle pas du meller non juif. On a besoin du roi, et c'est sur ça que, en fait, on appliquera soit Makinvonchinchelominadine ou d'autres règles qui permettent d'agir, alors pas tout à fait contre allégem, mais dans des procédures d'exception qui sont autorisées. Et la deuxième chose qu'il dit, c'est que pour des lois financières, on peut décréter, et c'est ce que fait le Meller, peut décréter des lois financières qui sont supplémentaires aux lois talmudiques, et dans ce cas-là, il rentre tout à fait dans ce que dit le Talmud, qu'il y a une notion de coutume pour les matières financières. Le point, enfin, pour illustrer ça, peut-être en un mot, c'est que on peut avoir l'impression que le RAN fait une distinction entre le rôle du Sanhédrin et le rôle du Meller. N'empêche que qui nomme le Meller, c'est le Sanhédrin. Donc il y a pas donc c'est-à-dire que le Meller va avoir un certain nombre de pouvoirs, enfin en ma'amidim Meller chez Alpi Sanhedrin, chez Shivim Vechad et ve Alpi Navi, bon et aussi avec un prophète, bon ça c'est une autre question. De sorte que ça fait la énième fois que j'emploie cette expression de sorte que donc on peut la changer. Et ainsi, même chez le RAN, il n'y a pas nécessairement de séparation entre ces deux points. Là où j'aimerais débattre avec toi, puisque ce que j'ai dit juste avant est bien sûr incontestable, c'est sur ce que tu as dit que il n'y avait pas de notion de force dans ce qui est associé aux règles du Sanhédrin. Je m'inscris en faux contre cette allégation, et au contraire, c'est-à-dire que, et à nouveau, le RAN ne s'y opposera pas sur ça non plus, je veux dire, à moins de jeter le traité Sanhedrin, je veux dire, il voit bien qu'il y a de nombreux cas où le Sanhedrin 1 est en capacité d'imposer ses décisions, que 2, le Sanhedrin peut décider de choses de lui-même, c'est-à-dire innover certaines lois, ce qu'on appelle les lois rabbiniques, et que 3, le Sanhédrin a aussi la capacité de juger pour des procédures d'exception des gens qui menaceraient soit la société, soit le maintien de la vie religieuse en Israël. Simplement, l'innovation du RAN, c'est de dire que la partie procédure d'exception qui incombe au Sanhédrin et aux tribunaux rabbiniques pour garantir le maintien de la société elle-même et pas seulement de la vie religieuse, ça, il dit qu'à l'origine, ça revient au Meller, au roi, et qu'en l'absence de celui-ci, c'est le tribunal rabbinique qui en hérite. Enfin, il n'empêche que Makinvonchin Shelo Minadin, ça s'applique aussi pour la Gemara nous propose une foultitude d'exemples en ce sens. Ça s'applique aussi pour des cas de préservation de la vie religieuse, par exemple. Je crois que je vais m'arrêter là, puisque j'ai fait une question qui est à peu près aussi longue que la présentation, et que les gens sont en train de s'évanouir. Enfin bon, c'est terrible. Merci.
Merci Rémi. Moi je suis étonné parce que j'ai l'impression que finalement on n'est pas, enfin, en apparence on est en désaccord, mais en réalité ça me semble pas vraiment un désaccord parce que Bon, déjà sur l'étanchéité du politique et du religieux, le fait de choisir de se présenter devant un tribunal rabbinique, devant un juge rabbinique, et d'accepter la sentence, c'est quand même très différent d'être contraint d'accepter une loi. On est d'accord que c'est deux paradigmes différents.
Mais il est
Dans...
obligé de se présenter devant un juge.
Mais obligé, mais personne ne va va l'amener de force dans le tribunal.
C'est pas clair, c'est juste. Toi, tu t'exprimes avec un biais que nous, on a. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pouvoir coercitif. C'est-à-dire que les bâtés d'Inim de nos jours n'ont pas ou peu de pouvoir coercitif,
Mais...
mais a priori, dans une. Je veux dire, tu as pris l'exemple de l'Espagne médiévale, bien sûr qu'on le pouvait. On le traîne de force
Oui, mais
pour montrer
l'Espagne.
la rabbine.
Oui, mais justement, c'est que l'Espagne médiévale, il faut faire attention à distinguer ce qui relève justement. Enfin, d'un point de vue extérieur, tout semble unifié, alors qu'en réalité, il y a le paradigme politique et le paradigme religieux. Et c'est de loin, ça a l'air confus, ça a l'air unifié. Mais par exemple, enfin, ce que tu dis sur le pouvoir coercitif, même dans la Torah, c'est marqué dans Deutéronome, tu nommeras des juges et des shotrim. Shotrim, généralement traduit par policier. Mais en réalité, ces shotrim-là n'étaient investis d'aucun pouvoir coercitif. C'était au mieux des greffiers ou des assistants du tribunal.
Je vous préviens. Pourquoi? Ils
C'est
sont reliés même à la.
pas évident. C'est pas évident. Ça c'est le.
Le gars qui refusait, le Sanhédrin pouvait imposer mettre des coercitions sur celui qui ne veut pas donner le guet alors qu'il a divorcé et qui ne veut pas libérer sa
Oui,
femme.
mais ça, bah pareil, ça c'est chez l'hominadi.
Non, c'est pas chez. Ah non, c'est pas. Ah, ça c'est faux. Get Meousé, le fait que ce soit pas considéré comme Get Meousé, c'est pas chez l'hominadi, parce qu'on s'appuie sur un Kinou ou pas, son mari. Enfin, c'est pas du tout chez l'hominadi.
Non, c'est pas si évident que ça. Et sur
Alors, c'est une mara explicite. C'est parce que les sages le décrètent qu'il doit remettre le guet. Or, on dit forcément qu'il veut remettre le guet. Et s'il ne le fait pas, c'est parce qu'il n'est pas. Il est pas. C'est l'extérieur de sa pensée qui ne veut pas remettre le guet, mais au fond de lui, il veut bien. Et c'est pour ça qu'on se contente de son oui, je veux bien, une fois qu'on lui a donné même des coups. Mais il n'y a pas il y a pas du tout de Machiavelli chez l'hominatine.
Là-bas, c'est pas du tout évident que c'est pas du tout évident qu'il s'agisse pas d'un pouvoir politique, enfin d'une capacité propre au roi, comme le roi qui va mettre à mort alors que le Bedin ne peut pas le mettre à mort. Cette sorte de capacité d'exception, de transgression contre
Là-bas,
alegem.
c'est précisément pour marquer la société. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Et en fait, c'est précisément pour les assassins, soyons clairs.
Mais c'est pas. J'entends hein, ton point, j'entends très bien, mais typiquement, ça fait partie de ces cas limites et je pense que c'est pas si évident que ça. C'est pas du tout si évident que ça. Et par rapport à la différence entre le droit et la force et l'incapacité de la Torah, il y a beaucoup de gens qui ont cru voir dans la Torah une loi idéale qui s'oppose à la loi réelle. Mais je pense pas du tout qu'il y ait d'opposition entre idéal et réel, c'est juste deux paradigmes différents. Un paradigme qui s'adresse au collectif et un paradigme qui s'adresse au particulier. Et la loi de la Torah s'adresse au particulier, et c'est le particulier lui-même qui s'interroge par rapport à cette loi, qui va agir en conséquence, alors que la loi qui s'adresse au collectif n'interroge pas directement le collectif. Et ensuite, sur la capacité d'imposer, tu as parlé des lois rabbiniques, des takanot, et des procédures d'exception. Et là aussi, enfin, moi je suis. Les takanot. Et les procédures d'exception sont des actions qui relèvent de la décision politique et donc du Meller, donc du roi.
Non, quand les Shluchei Beit Din, non, mais quand les Shluchei Beit Din sont envoyés par le Beit Din pour détruire les plants de vigne qui ont été plantés près des plants de blé, par exemple, pour éviter que les gens se mettent à les revendre, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, à les utiliser, je veux dire, tu peux hurler que c'est politique, n'empêche qu'on reste tout à fait dans un cadre religieux et c'est parfaitement dans les prérogatives du Beit Din.
Mais là aussi.
Là où tout le chidouche du RAN, c'est mon point. C'est que tout ce que le RAN innove ici, c'est juste de dire que pour la partie qui n'est pas liée à la religion, il est normal que le Beit Din s'en saisisse, mais qu'il ne s'en saisit que parce que le Mélèf ne s'en saisit pas. Et tout le monde n'est pas d'accord avec lui d'ailleurs, mais le Abravanel n'est pas d'accord avec lui non
Oui,
plus,
bien
par
sûr, bien
exemple.
sûr. Non, j'entends ton point, mais là encore, je pense qu'il faut réussir à distinguer entre théorie et pratique. Ça veut dire que sur le plan théorique, quand on regarde la Gemara, effectivement, il y a aussi des mises à mort, etc. Mais en pratique, c'est impossible à mettre en place. Et de même, enfin, pour la procédure que tu cites, je ne sais pas dans quelle mesure c'était quelque chose qui était réalisable concrètement, si c'était juste
Mais
une
on a beaucoup de
tension
cas où les
artérielle.
structures Bedin viennent et récupèrent l'argent, prêtent l'argent. Tous les cas de healthcare, Bedin healthcare, c'est bien parce qu'on a la capacité de récupérer l'argent. C'est pas de. D'ailleurs, il n'est pas sûr que quand le roi interdise un. C'est pas sûr, par exemple, qu'il y ait une notion de néa dimalcontadina pour des échanges financiers entre individus, par exemple. Quand tu observes les. Alors, sauf pour HBAM, mais quand tu observes les deux autres exemples, les deux autres raisonnements, c'est-à-dire pour Rambam et Ran, c'est pas évident que ça puisse s'appliquer, parce qu'il a rien à voir dans l'affaire, par exemple. En fait, mon point, justement, consiste à inviter les lecteurs de cette bracha de Ran, qui, j'en suis certain, seront très nombreux après ton intervention passionnante, c'est que la lecture qui voudrait nous. Qui nous inciterait à avoir une distinction entre politique et religieux, c'est une lecture qui est biaisée par notre point de vue de Français du XXIe siècle. Et c'est pas tout à fait ce que dit l'Oran. Il dit juste qu'il y a une notion de Melech dans la Torah qui, pour nous dire, pour inciter le collectif à décider de lois, au moins financières, mais pas seulement chez l'Oran, pour organiser la société.
Moi, j'entends ton point, mais je suis pas d'accord sur ce point de vue français et moderne. Tu prends l'ensemble de la littérature rabbinique de l'Espagne médiévale, postérieure et antérieure au RAN, et le RAN, c'est celui qui aura le mieux dit cette distinction-là, celui qui l'aura le mieux théorisé.
Mais c'est son avis à
Mais
lui.
oui, ça s'en avait dit. Mais ce que je veux dire, c'est que ceux qui viennent avant lui et après lui, dans les décisions juridiques qu'ils rendent dans les teshuvot, c'est limpide que finalement c'est la même logique qui est à l'œuvre. Tu prends les tshuvot du Rosh par exemple. Il y a plein de cas où en fait il va contraindre des personnes, il va organiser enfin il va exercer un pouvoir coercitif sur des personnes. Il va le dire qu'il le fait chez le Minadine, il va dire qu'il le fait du fait de la loi du roi, etc. Donc et tous à cette époque-là, avant et après surtout en Espagne, se réfèrent à cette distinction-là.
Quand tu prends l'exemple du Rosh, typiquement le Rosh, il y a plusieurs de ses décisions, dont une très connue par exemple, sur quelqu'un qui avait maudit, enfin bref, où il agit chez l'Ominadine, mais ce n'est pas forcément pour le Yishuv Medini. Quand il le fait là-bas, c'est Makin Bolchin chez l'Ominadine, au sens premier du terme, c'est-à-dire pour protéger la Torah, en fait. C'est-à-dire
C'est pas.
pour protéger la vie religieuse juive. Mais on en a plein.
Excuse-moi, je peux me permettre de re-réagir. J'ai l'impression que dans le mot étanchéité, tu voudrais voir que. Enfin, tu entendrais que un rabbin ne puisse pas prendre de décision politique. Sauf que c'est moi, c'est bien le contraire que je disais. Je disais que. Enfin, c'est ce que j'ai entendu dans la Drasha du Ran et dans ce que Samuel disait, qu'il savait où il y aurait une science qui permettrait à un homme religieux et politique de savoir sur quel pied il danse, à quel moment il danse. Et ma question à moi, c'était justement de savoir s'il y a transgression quand celui qui prend une décision politique se base non pas sur sa légitimité politique, mais sur sa légitimité religieuse. Et
C'est exactement ce sur quoi j'ai essayé de
j'entends,
revenir.
non, juste pour dire que donc il y a en fait, c'est pas parce que le enfin, c'est dans ton argumentaire, j'ai l'impression que tu prouves qu'il n'y a pas d'étanchéité parce que des hommes de religion ont pris des décisions politiques.
En tant qu'homme de religion, en tant que
Mais ça,
tu
enfin, c'est-à-dire
es,
que tu
c'est
considères que.
exactement, ben, c'est
Ah,
exactement
c'est
mon
ce que
point
j'ai
de
compris.
vue. C'est exactement mon point de vue.
D'accord.
C'est que ce que j'essaye d'expliquer, y compris dans la vie de Ram, c'est qu'il n'y a une notion du mélère que parce que la Torah donne une notion de mélère. Et il n'y a de mélère, le mélère juif au moins, c'est forcément Alpi Sanhedrin, c'est Tsérimon Tsimon. Quand le mélère fait sortir ces gens en guerre, qu'il s'agit d'une guerre, alors qu'on appelle guerre facultative, c'est uniquement après avoir demandé l'autorisation du Sanhedrin.
Mais là, c'est pas
Donc
clair.
c'est exactement. Pardon.
Enfin, c'est pas clair sur la nature de l'autorisation du Sanhedrin n'est pas clair. Est-ce que c'est une
Il n'y a
autorisation?
pas.
Est-ce que c'est un
La
conseil? Est-ce que...
que ce soit autorisation ou conseil, de toute façon, tu vois que des gens s'expriment sur un sujet. C'est-à-dire qu'on attend du rabbinat de s'exprimer aussi sur des sujets qui sont des sujets. Non, en fait,
Non.
les touchés. Attends,
L'étanchéité cette conception étanche que je dénonce, en fait, je la vois dans ta question, au moment où tu dis, est-ce qu'il donne sa décision politique en tant qu'en se prévalant de sa légitimité de rabbin, ou est-ce qu'il le fait en se prévalant de sa légitimité de citoyen? De sa légitimité de leader politique. Justement, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que dans cette question-là, c'est exactement la dichotomie que je vais utiliser. Il n'y a pas, c'est-à-dire que ça ne veut rien dire de parler d'imaginer un rabbin qui n'aurait pas son mot à dire sur l'organisation de la société en tant que rabbin.
Oui.
Et vice versa.
C'est que les gens dont je parle vont pas, quand ils donnent des conseils, quand ils donnent des ordres à leur communauté sur la façon dont il faut gérer leur vie, je pense notamment, je n'ai pas envie de donner, mais justement, je pense notamment à une question de décision sanitaire pendant Covid à certains endroits en Israël, où en fait, dans la teshuva de Rav, il y a écrit, c'est à sourdre de pas aller à la Sina à cause du Covid. Et en fait,
la plupart des rabbins d'Israël et des décisionnaires, au contraire, je demandais d'implémenter les mesures
pour s'en soulever. Évidemment, c'est pour ça que moi je dis qu'il y a quelque chose de tordu quelque part. C'est pas que tous ces gens-là ne sont pas tordus, au contraire, moi je leur donne, je leur donne leur légitimité, je ne leur fais pas, et vraiment je leur donne toute légitimité. Mais je dis que parfois, il y en a qui sont une forme de transgression de cette possibilité-là de donner des conseils de vie, des lignes conductrices politiques en se prévalant de la science religieuse et en disant moutard ou assaut sur des choses qui ne sont pas de l'ordre moutard ou assaut.
Je suis désolé, là en l'occurrence, la tefila rabbinienne est exactement dans le cas de moutard ou assaut. Les questions sanitaires, mais aussi exactement dans la question de permis ou interdit.
Alors, c'est là où on est diverge.
Tu es d'accord, pas d'accord avec moi, je veux dire, c'est un rambas explicite.
Mais ça veut dire. Du coup, pour reprendre cette grande phrase, c'est pas tout est politique, c'est tout est religieux.
Non, je dis juste que la question de se poser est-ce que tout est politique ou est-ce que tout est religieux, c'est introduire une dichotomie qui, au moins dans les propos du RAN, n'existe pas en tant que tel. C'est une lecture superficielle du RAN. Avec plaisir.
Je me permets de prendre aussi d'autres questions. Je profite pour faire. Je profite pour faire un petit point pub. Juste, vous voyez qu'ils étudient ensemble, hein, tous les deux. Donc, vous inquiétez pas, c'est des amis. Et en plus, voilà, on a le bonheur d'avoir aussi Rémi qui anime un module sur le Sanhedrin en ce moment. La dernière séance étant la semaine prochaine. Donc, tout va bien. Betzalel. Betzalel Goldstein.
Merci Samuel d'avoir importé un sujet dont on voit qu'il est fécond de développement qui peuvent aller dans plusieurs directions et qui mettent au centre la question de la dimension de l'efficace dans la loi juive. Et je crois que si cette dimension nous intéresse, c'est parce qu'elle est justiciable non seulement d'une explicitation vers l'extérieur, mais aussi d'un mouvement inverse que j'appellerais l'implicitation, à la fois au sens où il faut peut-être veiller à ce que continuer de faire place à un certain implicite dans la matière, mais aussi parce que je crois que je prendrai le sujet dans une autre direction pour ma part, et pour te soumettre, non pas sous la forme de questions, mais pour te soumettre néanmoins, j'insiste, quelques observations qui vont dans plusieurs directions à la vérité, mais qui ont à leur centre la question de l'équivoque et de l'ambiguïté. Parce que la situation napoléonienne que tu nous as présentée, en fait, elle a en son cœur de profonds malentendus et une très forte équivocité, très forte ambiguïté, qui est là toujours d'ailleurs quand le souverain, qui est une figure du non-juif, disons ici, veut faire dire aux juifs quelle est sa vérité. Et je crois que ça met le juif en position de faire preuve d'une forte ambiguïté, mais cette forte ambiguïté, ne lui est pas étrangère en vérité. Elle est aussi là où se trouve son essentiel. Donc je crois qu'il y a évidemment à décrypter la part d'habileté qui, comme cela a été dit, était en effet inévitable, imposée de l'extérieur, et donc il s'agissait un peu de sauver la peau de ce qui devait continuer d'exister. Mais en fait, là où c'est profondément, je crois, intéressant, ça continue d'être intéressant, c'est que dans la réponse du juif, il l'amène à prendre mieux conscience et peut-être à mieux élaborer ce qu'est profondément sa position. Et je crois que le sujet de l'efficace de la loi est un sujet sur lequel il y a à la fois une ambiguïté dans la façon dont les juifs ont compris de l'extérieur, mais aussi une profonde équivoque dans la façon dont les juifs se comprennent de l'intérieur. Et pour y arriver en passant par les textes que tu nous as ramenés, je dirais que la première chose, c'est qu'il n'est besoin de parler ni l'hébreu ni l'araméen pour entendre que Dina de Malchuta Dina, c'est une tautologie, puisqu'il y a la répétition du mot Dina, que d'ailleurs nous n'avons pas traduit. S'agit-il de la loi? S'agit-il du pouvoir? S'agit-il de la légitimité du pouvoir? Et les textes que tu as rapportés de la Gemara permettent justement d'apporter un éclairage là-dessus. Et je crois que le tour de force de cette tautologie, c'est en fait que ceux qui parlent à partir d'un lieu où ils n'ont aucun pouvoir donnent légitimité à la loi dont la véritable légitimité est qu'elle peut tout. C'est-à-dire que les juifs, ce qui les caractérise, c'est que ils sont obsédés par la production de lois au sens d'énoncé normatif, c'est leur grande affaire, mais ils n'ont quasiment jamais d'ordre juridique pour la faire appliquer. Et le fait à partir de cette position de dire que Dina de Malchuta Dina, reste à savoir ce qu'est Dina en l'occurrence, mais la Gemara nous en donne quand même une certaine idée, justement, qui est très intéressante, et c'est peut-être l'objet d'une deuxième remarque, le fait même de se mettre en position de dire la loi est la loi, signifie qu'elle n'est pas la loi au sens où elle prétend l'être, c'est-à-dire comme quelque chose qui écrabouille tout. Et comme en fait le sens de cette loi, dans le fond, je pense que le regard d'un juif sur cette loi, je crois que c'est la peut-être, évidemment chacun des textes de la loi que tu as rapporté est justiciable d'une étude qui n'a pas été faite ce soir, donc il s'agit pas du tout de prétendre en avoir retiré ce que l'étude en ferait ressortir, mais en revanche, il y a quand même quelques points de repérage possibles, et qui tiennent à ceci que il n'y est très peu question de loi, en fait. Il est question dans les références que tu as rapportées d'un douanier, de l'exercice de l'administration, pour le dire modernement, de l'exercice du pouvoir exécutif et de l'exercice du pouvoir judiciaire. Comme si les lois qu'il s'agit de faire exécuter ou de juger n'avaient aucune importance. Ou en tout cas, que d'un point de vue juif, ce qu'on en pense, c'est qu'elles, par définition, elles ne sont rien. Et que, en fait, on ne regarde dans l'ordre juridique que la dimension d'administration et de justice, c'est-à-dire, en fait, que l'exécution de la loi. Autrement dit, et je crois que dans le dispositif, l'implicite, il nous faut le rechercher parce que comme c'était très équivoque et que c'était très dangereux, il faut aller chercher dans l'implicite la vérité de ce qui s'est dit et qui ne pouvait pas s'expliciter. Je pense que l'implicite de ce qui ne pouvait pas s'expliciter, c'est qu'en fait de Dine, on ne regarde que les institutions qui sont capables d'écrabouiller un individu. Et d'ailleurs, le fait que, comme par hasard, le douanier dont il est question soit mis en série avec des gens dont le principal objet est de violer la loi, et que pour répondre à une apparente incongruité, on répond qu'en fait il s'agit d'un douanier qui s'autorise de lui-même. À mon avis, ce que ça signifie, c'est que ce qu'on en pense, c'est que tout douanier s'autorise de lui-même. Précisément pour la raison que les institutions dont il s'agit ne sont que l'exercice de la force maquillée par des formes juridiques. Et donc, je pense que le fait d'ailleurs que... Alors, l'ambiguïté est encore plus forte dans les textes de la Gemara que tu as rapporté que dans la situation napoléonienne, mais elle y est aussi, elle réside en effet, je crois, dans le fait que le nom de Sanhédrin ait été donné, parce que précisément, et certains ici le savent infiniment mieux que moi, mais le Sanhédrin a aussi pour fonction d'enseigner et d'élaborer la loi et pas seulement de la faire appliquer. Et il est évident que si Napoléon a appelé ça Sanhédrin, c'est parce qu'il n'avait rien compris à ce qu'était à ce que le Sanhédrin était avant tout un lieu de transmission du savoir et d'élaboration d'une loi dont on sait très bien, quoi qu'on dise sur la prétendue efficacité de cette loi et sur le fait qu'il faut des gens pour la faire appliquer, que le destin des Juifs est d'être ces gens qui ont des lois mais qui ne sont incapables de la faire appliquer. Et si on croit en Dieu, probablement faut-il croire au fait que ce n'est pas tout à fait un hasard que le destin des Juifs soit d'avoir des lois qui ne sont pas faites pour être appliquées aux gens à coups de marteau sur la tête. Et que, en effet, d'autres institutions le font aussi bien et que, dans le fond, peu importe que les lois de la Torah s'appliquent bien avec des coups de marteau sur la tête, il est probablement préférable qu'elles ne soient pas appliquées avec des coups de marteau sur la tête, sans quoi elles cesseraient d'être les lois de la Torah. Donc, je pense que, voilà, dans l'implicite qu'il fallait, je crois, faire un tout petit peu sortir de l'implicite dans ces différentes situations et dans la situation napoléonienne, il y a une profonde méprise, en effet, de la figure de l'étranger sur ce que sont les Juifs, c'est-à-dire que lui veut des éclaircissements. On n'est évidemment pas en mesure de les lui donner, parce que ce vers quoi tendent les Juifs, ce ne sont pas du tout ce genre d'éclaircissement-là. Et donc, évidemment, il s'agissait juste de se tirer d'affaire en lui disant des choses. Mais comme toujours, en lui disant ces choses, et en les mettant comme ayant généalogie, les passages talmudiques sur Dina des Malchut Dina, alors que dans le fond, je suis pas sûr que ça ait grand-chose à voir. Ce qui est dit en langue française dans les réponses à Napoléon et Dina de Malchut Dina tel que ça résulte de la Gemara, mais peu importe, en établissant cette généalogie, on crée une sorte de continuité dans le temps de ces situations où les Juifs sont amenés à, pour sauver leur peau, à dire qui ils sont à des gens qui sont absolument incapables d'entendre qui ils sont, mais ce faisant, sont amenés à mieux saisir qui ils sont. Et je crois que s'il y a un sujet profondément ambigu aujourd'hui, comme toujours, de l'intérieur comme de l'extérieur, c'est celui de la dimension de l'efficace dans la loi des Juifs pour les non-Juifs, mais aussi pour, et avant tout pour les Juifs eux-mêmes.
Je suis absolument d'accord avec ce que tu dis, Bethélé, merci beaucoup, c'est excellent parce que tu viens justement expliciter l'implicite de mon exposé, donc c'était nécessaire. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi et il y a justement, enfin, le fait même, par exemple, de dire qu'est-ce qu'un Meller, c'est le rabbin de communauté qui va prendre la responsabilité de la communauté, c'est quand même dire que alors que en exil, les Juifs vivaient dans des royautés avec de véritables rois et de véritables empereurs, et de dire finalement, qu'est-ce qu'un roi? C'est le rabbin de communauté. Il y a une façon d'ironiser aussi sur à la fois leur situation exilique et en même temps sur ce qu'est le pouvoir et ce qu'est l'exercice du pouvoir. Effectivement, est-ce que le roi n'est pas un douanier qui s'autorise de lui-même? Oui, c'est aussi, ça peut être perçu comme une critique du pouvoir et de l'exercice de pouvoir exécutif et judiciaire. Sur Dina, des Malchut Dina, le terme, en effet, j'en ai pas parlé, mais il y a beaucoup de commentateurs qui pensent que justement, si on dit Din, c'est pour l'opposer à Issour ou Aura, et donc en fait, c'est vraiment une catégorie uniquement commerciale. Et pas du tout religieuse, voilà, mais c'est vraiment un périmètre très précis. Et pour donner de l'eau au moulin, pour aller dans ton sens, dans la dracha du Ran, la fameuse 11e dracha du Ran, au moment de fonder la politique et d'expliquer la nécessité de la politique, il a dit bah, finalement, même une bande de voleurs établissent des règles entre eux. Donc c'est quand même. C'est peu reluisant comme fondation de la politique. Et donc voilà, il y a quand même cette idée enfin, on retrouve aussi cette ambiguïté dans la force. Et d'ailleurs, le démarrage de cette 11e dracha, c'est justement sur un passage du Deutéronome qui dit « Tu établiras des juges, Shoftim veshotrim titen lecha, veshavtu et am mishpat tzedek, ils jugeront le peuple avec une justice juste. » Mishpat Tzedek, un droit juste. C'est aussi une formulation un peu lourde. Et justement, ce que Ran va dire, c'est que c'est quoi Mishpat Tzedek? C'est un droit qui est juste en lui-même, en tant que tel, mais qui a justement qui a pas de dimension d'efficace. Par contre, le droit du roi, Mishpat Hameler, alors lui, il n'est pas nécessairement juste. Et sa prétention n'est pas d'être, n'est pas d'exercer la justice. C'est d'assurer Yishuv Medini, donc l'établissement de la société, Tikkun Medini, réparer quand le système marche moins bien, il faut le réparer. Voilà, c'est... Donc on retrouve parfaitement ce que tu dis là-dedans. Et, ouais, il y a aussi cette idée finalement que Danny Trome met en avant dans Persévérance du fait juif. Là-bas, il travaille sur le motif de la relation entre Esther, Pourim en fait, Esther et le royaume non-juif. Et il en tire en fait un motif de relation entre les juifs et les non-juifs à travers l'histoire. Et ce qu'il dit là-bas, c'est que un des motifs récurrents dans l'histoire juive, c'est la défaite niée. C'est au fond, lorsque Rome prend Jérusalem et détruit le temple, l'histoire juive aurait pu s'arrêter là finalement. C'est-à-dire, on a perdu, c'est fini, le temple n'existe plus, le judaïsme n'existe plus finalement. Et non, ce que vont faire les rabbins, c'est ils vont inventer un autre judaïsme en disant, bah finalement, enfin non, ils vont inventer plutôt une réponse à ça en disant, bah c'est pas qu'on a été battu par les Romains, c'est que finalement, du fait de nos propres fautes, Dieu nous a punis, mais il va nous rétablir. Et certes, on ne peut plus exercer notre judaïsme comme auparavant, on ne peut plus apporter de sacrifices au temple, mais finalement, on va remplacer ces sacrifices par des prières. Bon, ça veut dire qu'on arrive à la survie tient dans la défaite niée, dans la négation du réel presque. Et c'est aussi quelque chose de... Enfin, voilà, une des clés de la survie du peuple juif, et c'est peut-être ce que tu disais aussi, en tout cas, je suis tout à fait d'accord.
Merci pour l'exposé. Juste un peu une question un peu à l'absurde, mais est-ce que c'est pas une tautologie aberrante? Parce que finalement, est-ce qu'on pourrait se retrouver dans une situation dans laquelle ça n'existerait pas? Est-ce que je pourrais me retrouver dans une situation où je n'ai pas appliqué la loi de l'État dans lequel je vis? Imaginons une communauté totalement close. Finalement, à un moment donné, je vais utiliser un ruisseau d'eau, je vais utiliser un chemin d'eau. Et donc, si je ne paie pas mes impôts, je deviens voleur au titre de la halakha. Donc, le fait d'évoquer cette loi comme mode d'intégration à la vie publique est un peu une tautologie aberrante, puisque de toute façon, on n'en a pas besoin. D'autant plus, j'allais dire, on l'évoque souvent dans le cadre civil comme mode d'intégration des juifs à la société. C'est un peu l'inverse, quoi, finalement. Parce que si je paye mes impôts, c'est un principe chez les juifs, le financier ne réifie pas, il crée une identité. Si je paye mes impôts à l'État, c'est que je suis différent de l'État. Et je peux garder mon identité juive et je peux même la revendiquer quelque part. C'est même le principe dans la Révolution française, je suis citoyen parce que je paye mes impôts. L'État moderne est né sur ce principe de l'imposition. D'ailleurs, c'est la loi de 1905, laïcité en France, on l'oublie, c'est une loi fiscale, c'est pas une loi civile. C'est une loi de séparation du budget. Il fallait aller très, c'est pour ça qu'il fallait aller très vite pour le budget de 1906. Donc c'est purement financier, fiscal, et fondamentalement, je crée mon identité parce que je paye mes impôts et j'ai le droit aussi de revendiquer aussi un certain nombre de points. Donc, est-ce que c'est pas une pure tautologie un peu absurde de dire revendiquer d'Immanuel Malonga? De toute façon, je pourrais pas, l'inverse n'est pratiquement pas possible en pratique. Donc, j'ai du mal à l'imaginer. Et puis c'est, alors là je vais demander une réponse très personnelle, si, c'est quand tu parlais le raisonnement, si je, donc la loi hébraïque en effet, et dans les tribunaux, si on compte Dina Malrota ou Dina, ma connaissance n'a jamais été évoquée dans les tribunaux concrètement, ça a été évoqué dans des questions, la plus célèbre c'est Lionel Jospin qui avait demandé au Conseil d'État, mais c'était une question quand ça a été évoqué, ça n'a jamais, à ma connaissance le Conseil d'État n'a jamais relevé. J'ai une connaissance en Belgique, mais la Cour de cassation m'avait invalidé en disant que ça ne rentre pas du tout en ligne de compte. Et quand les tribunaux ont à gérer des problèmes hébraïques, de droit hébraïque, ils ne font pas référence du tout à ça, ils font référence directement à la clause compromissoire ou autre. Donc le problème en pratique ne se pose même jamais, pratiquement, réellement aux tribunaux en concret en droit. Mais la question, si c'est un peu plus subtil, vraiment très personnel, est-ce qu'un juif, finalement, a le droit de résoudre des problèmes de droit laïque? Étant donné que dans ce cas-là, excuse-moi, le raisonnement est un peu tordu. En tant que juif, si j'ai des problèmes juifs, ok, je peux intervenir. Mais est-ce que j'ai des problèmes qui ne me posent pas ma communauté, est-ce que finalement je ne dépasse pas ici le cadre de Dina Malgoutanina? C'est-à-dire je suis en train de me confondre et à résoudre des problèmes. Dina Malgoutanina, étant donné qu'il crée la différence entre moi et les autres, quelque part, est-ce qu'on peut imaginer des magistrats juifs? Ça m'arrangerait que tu répondes oui.
Merci beaucoup. Alors sur le premier point, la tautologie, je suis vraiment assez, assez d'accord. C'est que finalement, et c'est un peu ce que disait aussi Bézalel, c'est que fond, c'est comme si on se persuadait à nous-mêmes que oui, l'impôt du roi, on va le payer et on ne va pas refuser de payer l'impôt. Concrètement, oui, oui, ça n'a aucune valeur, ça n'a aucun efficace, oui, c'est un rapport réel. Je suis d'accord, c'est assez étonnant, mais ça fait partie de cette logique du droit talmudique qui se joue ailleurs, justement. Et sur le deuxième point, moi je ne pense pas justement que Dina de Malchuta Dina, c'est une façon de se mettre à distance et d'affirmer une identité. Je n'ai pas du tout l'impression que c'est ça, j'ai l'impression que c'est au contraire, c'est le fait de considérer le roi comme une personne à part entière, et en fait, en tant que tel, j'ai une relation avec ce roi en tant que personne. Ce roi peut être propriétaire de la terre sur laquelle j'habite, alors à ce moment-là, je dois lui payer des impôts comme j'allais payer un loyer à mon propriétaire immobilier. Il a le droit de récupérer cet argent-là, et si je refuse de lui payer, alors je vais le voler directement de sa poche. Donc c'est une façon de considérer le roi, non pas comme une institution, mais de le ramener à sa dimension physique. C'est pour ça que ça devient compliqué quand le roi cesse d'être une personne physique. Mais justement, il me semble pas du tout que Dina de Malchuta Dina, c'est une façon de se mettre à distance et d'affirmer une identité. Aussi, parce que justement, et comme le disait Rajbam, c'est une façon d'affirmer la capacité d'établir des normes en commun avec des personnes qui ne sont pas forcément juives, justement. Et donc, non, au contraire, c'est peut-être que justement c'est là où les deux paradigmes se rencontrent et il y a de l'ambiguïté, c'est que du point de vue de la loi talmudique, peut-être que justement la loi talmudique n'a pas vraiment son mot à dire sur la société dans laquelle elle vit, ou en tout cas c'est peut-être pas son objet. Alors, et peut-être que justement au contraire, les juifs en tant que citoyens et habitants d'un pays avec d'autres personnes, ont à ce titre la légitimité de discuter, de réfléchir à des lois et des normes qui les concernent.
De reprendre la parole, mais c'est l'intervention de Bézalel qui m'y a un peu poussé, il a très bien parlé comme vous, de Dina, mais au fond, il y a une piste qui a été évoquée quand vous avez dit, vous, ou peut-être Rémi Koskas, que Malchuta, bon, pourquoi c'est en araméen d'ailleurs, bon, effectivement, c'est la langue de la Gemara, mais qu'est-ce que c'est que ce Malchuta, au fond, même historiquement, parce que, est-ce qu'il ne s'agit pas tout simplement du droit romain, qui était celui, le droit qui s'imposait, hein, et ces douaniers, c'est peut-être un mot poli pour les proconsuls qui volaient allègrement de leur propre chef les peuples dont ils avaient la charge. Et finalement, parce que les Juifs ont eu un statut après la chute du Temple, ils étaient sujets du sujet romain, et ils ont conservé ce statut politique, finalement, jusqu'au moment de l'émancipation. Donc effectivement, même, est-ce que ce travail de David Sinsheim, se fait pas au moment où, à la croisée des chemins, où ce statut sous lequel les Juifs, qui signifierait la Malchuta, au fond, tout simplement, c'est-à-dire au-delà d'une personne physique de roi, c'est tout simplement le droit romain, le statut qui était d'être sujet du prince et non pas sujet du comte ou du duc ou du serf. Ils étaient les serfs du roi ou de l'empereur. Voilà, donc je voulais savoir si ce n'était pas une piste. Et donc, finalement, ce principe de dina de malchuta dina serait complètement obsolète au moment où il n'y a plus de malchuta, c'est-à-dire il n'y a plus de droit romain.
Alors, sur le droit romain, je pense qu'effectivement, il y a des pistes qui sont connexes. Tout à l'heure, j'avais mentionné le principe de Ulpien au IIIe siècle, qui disait ce qu'a décidé l'empereur, je vais retrouver la citation exacte, mais ce qu'a décidé l'empereur, en fait, c'est la loi. La différence principale, c'est que la logique impériale, c'est de délester le peuple de tout son pouvoir politique et de le transférer à l'empereur. C'est très différent ici de Dina de Malchuta Dina. Là, c'est plus une reconnaissance de cette personne, à savoir est-ce que finalement est-ce que je dois quelque chose ou pas à cette personne. C'est pas, je vais pas me délester de mon pouvoir, de ma capacité d'agir au profit de cet empereur. C'est là où je vois la différence vraiment nette avec le droit romain sur la dimension de l'empire. Et sur l'empire romain en tant que tel, je pense qu'il y a une question qui se pose aussi parce que finalement il me semble que Dina de Malchuta Dina s'applique uniquement à une personne physique, un prince, mais aussi un duc. Mais dans le cas de l'Empire romain, enfin l'Empire romain a pris différentes formes, différents régimes politiques, il y a eu différents régimes politiques. Et Dagmara mentionne le régime du Sénat romain, et donc en fait des formes qui pourraient s'apparenter aux formes, au régime mixte propre aux démocraties modernes. Et à ce moment-là, il y a une friosité à qualifier ce régime-là de Malchuta. Il y a une reconnaissance, c'est-à-dire on reconnaît qu'il s'agit d'une autorité politique. Peut-être que la personne, s'il y a une personne qui se révèle parmi ses pairs, alors cette personne-là sera considérée comme un roi. Mais ce sera que par effet de métaphore, un peu comme pour le chef de communauté. Récemment, enfin depuis la création de l'État d'Israël, la plupart des rabbins cherchent à faire exactement utilisent le même mécanisme en disant finalement, il y a eu beaucoup de questions qui sont posées, à savoir est-ce que l'État d'Israël a le statut juridique du roi juif, par exemple. Il y a beaucoup de décideurs qui pensent que oui, en disant finalement, un État ou une communauté médiévale, c'est la même chose. Ça veut dire qu'il y a une personne qui prend des décisions. Cette personne-là, on va l'appeler Meller, on va dire que c'est un roi, et tout va dérouler ensuite. Donc en fait, il n'y a rien qui change vraiment. Il n'y a aucune modernité politique où il n'y a aucun. Même le messianisme, finalement, retombe dans. Enfin, c'est aussi un peu ce que montre Traum dans son livre L'État de l'exil. Quoi. Finalement, l'État d'Israël n'est pas perçu comme un État messianique, mais finalement comme la continuité de la modalité politique des juifs en exil, finalement. Et donc, c'est assez bluffant de voir ça dans les différentes responsables juridiques. Rav Obadiah Yosef, par exemple, c'est exactement ce qu'il fait. Il dit que dans l'État d'Israël, il y a une personne qui prend des décisions, c'est le Premier ministre, et bien ce Premier ministre, c'est comme un roi. Voilà. Donc en fait, il reproduit vraiment le même schéma. Donc, exactement.
Pardon, je vous permets de parler une seconde fois pour agir très rapidement, beaucoup plus rapidement, rassurez-vous, que la première fois sur quelques points. Le premier, c'est, tu disais, Dina de Malchuta, on ne sait pas ce qu'est Dina, on ne sait pas ce qu'est Malchuta, mais manifestement, Dina se rapporte à Malchuta, quel que soit le sens de chacun de ces mots, présentant entre eux un certain rapport. Et l'enjeu donc, de la réponse à la question de savoir s'il est vrai que Dina de Malchuta, ou s'il est faux que Dina de Malchuta, soit un Dina, c'est que Dina procède de Malchuta, c'est-à-dire qu'il s'agit du Din, qui procède du Malchut. Disons, pour le traduire très imparfaitement, il s'agit du morceau de droit, on ne sait pas si c'est de la loi ou autre chose, qui procède de l'autorité, on ne sait pas si c'est un roi ou autre chose.
Donc il y a un morceau de droit qui procède d'une autorité, et est-ce que c'est un morceau de droit ou pas pour nous? Il me semble que ce que fait peut-être la Gemara, et en tout cas, pour ce que j'en ai compris, mais c'était vraiment très rapide et je n'ai absolument aucune connaissance de ce que tu as cité, de ce qu'en ont fait les commentateurs qui sont venus ressaisir le sujet, c'est d'affirmer très fortement qu'il n'en est rien. Parce que, en fait, on ne rétablit pas en disant que le roi est un propriétaire qui vient réclamer son loyer ou que sais-je encore. On n'est absolument pas en train d'établir son autorité, mais au contraire en train de lui retirer son autorité, puisqu'on en fait un sujet de droit. C'est-à-dire qu'on dit oui, il faut lui payer ses impôts, puisque c'est comme un propriétaire qui vient réclamer son loyer. Autrement dit, aucun dîn ne procède de son malfaute. Aucun morceau de droit ne peut sortir d'une telle autorité. S'il avait une autorité, alors il n'aurait besoin d'aucune espèce d'analogie avec une autre situation pour que sa volonté puisse prévaloir. Et à nouveau, le fait de dire que le douanier est un faux douanier me paraît à nouveau apporter de l'eau à ce... Enfin, prolonger peut-être un effet de cette idée, parce que la marque du fait qu'il n'a aucune autorité, c'est qu'il est incapable de la déléguer. Au fond, il a de la force. Il en a beaucoup, et il est capable de produire des effets, donc il s'agit de les reconnaître. Mais dès lors qu'il s'agit moindrement de produire des effets symboliques, comme la capacité à déléguer sa force à un autre, il n'y a plus rien. Son douanier, c'est juste un brigand. Lui, il peut beaucoup parce qu'il est très très fort. Mais dès lors qu'il doit produire le moindre effet symbolique, il n'y a plus rien du tout. Donc ça, c'est la première remarque. Et la deuxième, c'est que, je regardais un tout petit peu la citation qui est faite sous le titre de... qui porte sur le droit du roi à s'emparer de propriété privée et à exproprier pour établir des ponts et des routes. Donc, une toute petite remarque qui est évidemment un hommage à des choses qui, comme toutes les choses que j'ai dites, je l'ai apprise évidemment de mon père à ce Beit HaMidrash, et ça va sans dire, mais celle-ci en particulier prolonge un enseignement qui est extrêmement, extrêmement fécond pour beaucoup de gens, à propos des ponts, justement. Dans cette citation, il est question donc de la loi qui interdit qu'un juif porte un vêtement qui est mêlé de différentes fabriques, enfin de différents, de lin et de laine en l'occurrence, mais peu importe, je ne vais pas en rendre compte, donc laissons ça de côté. Et donc la question est de savoir si on peut revêtir un tel vêtement par-dessus plein de vêtements, sous-entendu ça n'a pas vraiment fonction de vêtements, mais plutôt pour tromper le fisc, quoi, disons. Et ça se ramène à des questions de savoir si un geste qui est fait sans l'intention de le faire, ou dans l'intention de faire autre chose que ce pour quoi il est généralement fait, est considéré comme un geste, etc. Donc il y a la question, d'abord, de la question de savoir si un juif peut se présenter avec un vêtement ambigu, si on peut dire, face à l'autorité, puisqu'il s'agit de mettre un vêtement ambigu pour faire face aux précepteurs des impôts, aux douaniers. Et deuxièmement, il est question de savoir si l'intention dont procède une action la détermine juridiquement ou pas. Ce qui est évidemment au cœur de la querelle des juifs et des chrétiens, par exemple. Et le fait qu'on parle d'un roi qui vienne exproprier une propriété privée pour établir des ponts, me paraît surdéterminer encore cette question des intentions, parce que ceux qui ont étudié, par exemple ici, la Gemara Odazara, à propos de cette scène de la fin des temps, où les nations viennent réclamer leur dû à Dieu, savent que les nations notamment disent « mais nous avons établi des ponts et des marchés, ces ponts et ces marchés ont permis aux Juifs de faire ce qu'ils avaient à faire, donc nous réclamons notre dû. » Et ce que disent, à ce moment-là, ce que répondent, pour faire vite les rabbins, c'est que ils ne peuvent pas réclamer leur dû, parce qu'ils ont établi des ponts dans une intention entièrement mauvaise. Eurent-ils établi ces ponts dans une intention moindrement altruiste, même si elle n'avait strictement rien à voir avec les juifs, mais altruiste pour faire que la société fonctionne ou que sais-je, à ce moment-là, en effet, le fait que les juifs aient pu profiter de ces ponts aurait été mis au crédit de ceux qui les ont établis. Mais le fait qu'ils les aient établis dans une intention intégralement égoïste et perverse fait que le fait que des gens, que dans l'occurrence les Juifs aient pu en profiter, n'est pas mis à leur crédit. Et donc je crois évidemment ce passage, il faudrait l'étudier, c'est à part entière, mais il me semble que ces différents points de repère permettent d'approfondir encore l'idée que il s'agit de la façon dont un juif se présente face à l'extérieur, disons, enfin, notamment face aux nations, avec un vêtement ambigu, un vêtement dont l'ambiguïté ne peut être comprise que si on sait que les lois juives existent, parce que sinon le fait d'avoir du lin et de la laine, ma foi, pourquoi pas, ça peut être saillant. Mais donc une ambiguïté dont il a lui-même lourdement conscience et qui en fait procède d'une norme, et la question de savoir s'il peut s'appuyer sur cette ambiguïté pour faire face aux autorités, a l'air donc d'être en effet le cœur de, en tout cas un des cœurs de l'affaire.
Abonder dans ton sens. Non, merci beaucoup. C'est effectivement un point très assez crucial. Ça me fait penser à deux choses. Sur le premier point, le roi comme percepteur des impôts ou comme douanier, à la fin de la Megillah d'Esther, la dernière phrase, c'est et le roi décida de lever un nouvel impôt. C'est comme ça que se termine la Megillah d'Esther. Alors que toute l'histoire de la Megillah d'Esther est une histoire justement sur la confrontation de ces deux paradigmes, de la minorité face au pouvoir, et ça se termine sur le roi en tant que percepteur d'impôts. Effectivement, il y a quelque chose comme un motif qui revient. Et sur le deuxième point, dans Avodah Zara, là-bas, dans la Gemara, si je me rappelle bien, c'est donc à la fin des temps, Dieu qui appelle toutes les nations et qui tend à Sefer Torah, qui dit, mais qui va... Enfin, en hébreu, Mibahem Yagidzot, qui va dire quelque chose, je ne sais pas très bien comment traduire, mais qui va dire quelque chose, qui est-ce qui va en dire quelque chose de cette Torah? Et c'est là que l'Empire romain s'engouffre en disant, nous avons construit des ponts, nous avons construit des marchés. Donc là aussi, il y a une ambiguïté sur finalement les intentions, effectivement, mais... C'est-à-dire le narratif de l'Empire romain à ce moment-là, c'était de dire on a construit des routes et ce geste-là s'inscrit, enfin, dit quelque chose de la Torah. Peut-être que c'est là qu'il y a quelque chose à... Enfin, l'ambiguïté se joue là, justement. Si on construit des routes, c'est pour l'ordre social, mais c'est pas pour raconter, dire quelque chose de l'ordre de la Torah, peut-être. En tout cas, merci.
Vous dites que votre conclusion, Joe?
Je me suis posé la question pendant toute cette soirée, si vous avez traité votre sujet, qui était celui de dire que ce concept, le Dina de Mokotadina, était central pour comprendre la politique juive en exil. Et cette discussion talmudique que vous nous avez partagée, et dont je vous remercie infiniment, parce que même si elle était parfois difficile à suivre, nous a fait percevoir pourquoi c'était essentiel, effectivement. Mais en écoutant cette discussion talmudique, je me suis rappelé de la manière dont nous avons commencé ce séminaire, à partir pas de Talmud et pas de la loi orale, si je puis dire, mais le travail de Dani Trom était plutôt dans le monde du Midrash et des commentateurs de la loi écrite, et il l'a dit, il l'a expliqué, et c'était très intéressant de l'entendre, parce qu'effectivement on échappait à toute à ces questions à la RIC. Le recoupement que je vois entre les deux, et c'est pour ça que je considère qu'on est totalement dans le sujet, c'est qu'effectivement ça m'a fait penser à cette idée que si le peuple juif a réussi à survivre à l'exil et à exceller dans l'exil, et peut-être même à être meilleur que ce qu'il aurait été sans, s'il n'y avait pas eu l'exil, c'est parce qu'il a une protection du roi des rois, et qui confie à tous les rois la protection des juifs jusqu'à une certaine limite. Et donc, il y a effectivement une notion de malchoute. La notion de malchoute est permanente dans la tradition juive. Et là, le Dina de Malchuta nous expose à la loi des autres pour les autres, mais dans lesquelles nous sommes, nous vivons. Et je pense que c'est la première Gemara qui parle du Mochès qui ne se donne pas de limite. C'est-à-dire, nous acceptons, non seulement nous acceptons, mais c'est une mitzvah de payer ses impôts pour que on construise des routes, même si parfois sur ces routes passent des choses avec lesquelles on n'est pas... Mais à condition qu'effectivement ce soit une loi égale, que ce ne soit pas une loi qui fait de celui qui doit l'appliquer quelqu'un qui fait n'importe quoi au détriment des autres. Et dans cette mesure, mais c'est vraiment une remarque par rapport à Dina de Malchuta Dina, d'une certaine manière, c'est vrai que Dina de Malchuta Dina nous met dans la loi des autres, dans la loi du pays, etc. Mais elle nous fait également un peu législateur. Qu'est-ce que ça veut dire que je refuse le percepteur qui exagère ou qui fait n'importe quoi ? C'est-à-dire que j'enseigne à tout le monde qu'il faut une limite. Oui, il faut une loi, mais il ne faut pas que ceux qui l'appliquent, et je suis d'accord avec Bezalel, que c'est dans l'application que les choses se discutent. Donc, je vous remercie pour cette soirée, et je pense qu'effectivement nous avons eu la chance d'un moment d'étude approfondi, et merci Samuel d'avoir pris le risque. La prochaine séance vous sera communiqué par le mail habituel de Alexandre, et je vous invite à vous détendre un peu, à prendre du temps pour bavarder. On est content quand les gens restent un peu et échangent avant de partir, même si effectivement il est tard. Voilà. Oui, allez-y. C'est vous qui avez le mot de la fin, alors allez-y. Formidable. Formidable.
Si je veux, ce sera au printemps.
On essaie de décliner les séances en propositions de coups, parce que les gens peuvent approfondir, parce que vous pouvez étudier un livre ou l'autre, puis avoir l'occasion d'étudier, parce que, comme je l'ai dit, ce ne sera pas la carte que nous sommes dans un petit crash.
Voilà. J'en profite aussi pour remercier Nicolas Veil de sa présence, et parce que voilà, bon, le public ne le savait pas, mais voilà, il a accepté un petit peu au dernier moment d'inverser l'ordre de son intervention qui aura lieu le mardi 17 mars, et je l'en remercie vivement. Voilà, et notre prochaine rencontre, ce sera dimanche 1er mars, on en fait deux en mars parce qu'on y a une grande coupure avec Pessah, un peu avant, un peu après, donc ce sera avec Yona Abitbol, notamment sur la Megillat Esther, dont vous étiez parti. Danny Trump, un grand, grand merci, Samuel, pour ta présence.
Prenons du temps, Pélo.
Merci pour les questions. Il n'y a pas de séparation.